Nous sommes là pour notre deuxième méditation, pour nous faire entrer dans ce Vendredi Saint qui a déjà commencé avec l'agonie, qui a déjà commencé avec la passion du Seigneur. Au Jardin des Oliviers, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 5 et suivants, « En entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as donné un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Dans cette parole, nous avons le désir du Seigneur de toute éternité qui s'exprime à son Père et qui va s'incarner pour le salut. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. Et cette parole, le Seigneur va la redire dans sa chair. Il va la redire dans sa chair. On pourrait dire, il redécide. Une fois que la nature humaine est assumée à la passion, à l'agonie, puisqu'il dira « Père, non pas ma volonté et ta volonté ». Il y a une parfaite adéquation entre le Verbe incarné qui, à la passion, va dire « Père, non pas ma volonté, mais ta volonté » et le Fils éternel, le Verbe avant l'incarnation qui dit « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté ». Dans les deux cas, c'est Dieu qui sait ce qu'il attend, et dans l'autre cas, c'est aussi Dieu qui sait ce qu'il attend, mais qui le vit dorénavant dans sa chair. Et saint Thomas, qui commande ce passage, nous dit que le Seigneur, de fait, a exprimé avant quelque chose de sensible. Il a dit que cette coupe s'éloigne de toi, si tu le veux, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Alors c'est très intéressant parce que saint Thomas nous dit qu'il est légitime de pouvoir exprimer son dégoût de la croix, de la souffrance, de la peine. Que c'est légitime selon la nature humaine. La nature n'est pas faite pour souffrir. Elle souffre parce que c'est la conséquence du péché. Et que la souffrance pour la souffrance, ce n'est pas chrétien. Et donc le Seigneur l'exprime d'une part, et il l'exprime humblement et faiblement. D'autre part, on n'entre pas dans le mystère de la croix en mode glorieux, super conquérant, c'est pas vrai. La croix, ça dépouille et ça fait mal. Et le Seigneur nous montre que la chair humaine, que la volonté pourrait se rebeller et qu'il est humble. Il a déjà montré dans le passé sa fragilité, puisqu'il s'est ému devant la mort de Lazare, et aussi il a montré sa fatigue et son besoin de dépendre d'autres à travers la rencontre de la Samaritaine, j'ai soif, ou encore, et plus tard il le montrera, en accueillant l'aide de Simon de Cyrène pour porter la croix. Donc le Seigneur ne rentre pas comme un triomphant dans l'agonie, dans la passion. Ce qui est une grande leçon pour nous, il n'y a pas à culpabiliser si nous rentrons dans la passion du Seigneur ou même dans nos vies dans la croix en mode fragile, faiblard. Il n'y a pas de honte à avoir, le Seigneur ne l'a pas caché. Mais le Seigneur est Dieu, et je disais hier, il est inaltérable, le péché ne peut pas le détruire, et sa volonté est toujours profondément ordonnée à la volonté du Père. Il le dira aussi en Jean 4. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. De toute éternité, il fait la volonté du Père. Nous avons entendu dans l'Épître aux Hébreux s'exprimer le Christ, le grand prêtre éternel, le Fils éternel. Et quand il s'incarne, il exprime encore cette volonté, ce qui fait que sa nature est tout de suite conduite vers la volonté du Père. Que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Et c'est ça le terme de sa parole. Et De fait, il va encaisser les coups, mais le terme, c'est toujours la volonté du Père. Et c'est une grande leçon pour nous. Ça veut dire que le Seigneur n'a pas flanché, qu'il est digne de foi, qu'il est capable de traverser, il le montrera à la résurrection, et qu'il peut nous aider, et que nous, chrétiens aussi, si nous rentrons humblement, avec difficulté, le Seigneur peut nous aider à ne pas flancher et à accueillir sa volonté. Et il y a un mystère, comment ça se fait que le Seigneur passe par là? Et nous allons rentrer dans ce mystère. Revenons sur un point important avant d'entrer dans le mystère de l'agonie, de la flagellation. Arrêtons-nous sur une parole prophétique qui restera pour toujours une parole prophétique, qui est la parole de Pilate. Pilate, c'est quelqu'un, on dépeint plusieurs Pilates dans les évangiles. Selon les évangélistes, il y a plusieurs approches de Pilate. Mais le Pilate de Saint Jean est le Pilate philosophe et le Pilate prophétique malgré lui, c'est le plus important, mais aussi le Pilate lâche. Et c'est très intéressant de voir le Pilate philosophe et le Pilate lâche, parce que ça nous concerne. Pilate est impressionné par la carrure de l'homme qu'il a en face de lui. Simplement, à niveau humain, on serait très étonné de voir un homme une telle maîtrise au moment de mourir, d'être condamné à mort, de se tenir en paix, calme, comme s'il maîtrisait les événements. C'est un peu ce qu'il va lui dire. Et il va même lui dire le niveau de son péché et rappeler que ceux qui l'ont livré ont commis encore un plus grand péché. Donc il est très lucide sur la situation, ça impressionne Pilate. Pilate va avoir une question forte, une question de philosophe ou de croyant qui cherche à aller plus loin. Qu'est-ce que la vérité? Le Seigneur l'a souvent proclamé. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité. Qui me suit marchera dans la lumière. » Mais Pilate n'arrive pas à suivre le Christ. Et peut-être, mystérieusement, le Seigneur ne veut pas plus se révéler que ça à Pilate, puisque Pilate n'est pas capable de poser l'acte de foi ou demander la foi. Il en reste à la raison. Mais la raison qu'il cherche, qu'est-ce que la vérité? Et le Seigneur ne lui répond pas par un théorème. C'est sa personne qui est la vérité. Mais avant, sa personne disait la vérité. Maintenant, elle veut la montrer en acte. La passion du Seigneur est la parole fait chair par excellence. Elle parle dans la chair, pour dire autrement. C'est des paroles silencieuses, mais qui sont plus éloquentes, parce que c'est vraiment le Verbe fait chair depuis l'incarnation, mais là, ça parle dans la chair. Ce n'est plus sonore, c'est dans la chair. Et Pilate peut avoir une réponse dans la chair. Mais le Seigneur n'en est plus à parler, parce que la parole a été dite 10 fois, 20 fois, 100 fois, et que le cœur humain est sourd, il est endurci. Et donc une parole plus profonde, mystérieuse, dans la chair, va pouvoir agir en son temps. Donc on voit la limite d'une pensée philosophique, d'un cherchant Dieu avec sa raison, qui va rester comme obscurci face à ce mystère. Et même après, un croyant, des croyants qui chercheront avec la foi, la crucifixion du Christ sera un scandale, une folie, nous dit Paul, pour les païens et les juifs. Donc il y a quelque chose, si nous rentrons là-dedans, qui nous dépasse au niveau rationnel, où nous rentrons humblement et pauvrement, et pourtant c'est la vérité du christianisme. Il y a quelque chose de vrai. Là est dit une grande réponse, une solution au mystère de notre existence et à la question du mal. Mais c'est obscur. Et quand quelqu'un n'y rentre pas, et on n'a pas à condamner quelqu'un qui n'y rentre pas, peut-être qu'il n'a pas demandé la grâce et la grâce ne lui est pas donnée, Souvenez-vous, dans ce passage de la Passion de Mel Gibson, si je me souviens bien, Hérode fait revenir Jésus avant qu'il soit à Pilate. Il l'interroge, il veut le faire parler. Il ne parle pas, silence. La parole sera dans la chair maintenant. Mais il regarde juste un esclave à côté et l'esclave est touché. Il est visité complètement dans ce qu'il est. La parole dans la chair peut visiter quelqu'un. Il suffit d'avoir le cœur ouvert. Mais c'est un mystère. Et quand le cœur n'est pas ouvert, l'homme est lâche. L'homme retourne à sa cupidité, voyez. Pour le dire autrement, la parole dans la chair, c'est la parole du bien dans le mal, c'est la lumière qui brille dans les ténèbres, mais qui n'est pas dissible, mais qui est réelle, pleine d'empathie et de compassion. Mais quand l'homme ne sait pas l'entendre, sa blessure interne fait qu'il se recroqueville sur lui-même. Et Pilate aurait dû être juste. Il ne l'est pas. Il ne défend pas l'innocent. Il préfère son poste au risque d'une rébellion. Et il tombe dans la lâcheté. Voyez ? Il y a un jugement qui est fait sur Pilate. Peut-être pas décisif, c'est le mystère de Dieu. Mais en termes de justice, avant même de rentrer dans le mystère de la foi, il a fait une erreur grave. Voyez ? Et donc pour nous, approcher le crucifié, c'est soit rentrer pauvrement et être éclairé par la parole dans la chair, soit de fait, ça nous renvoie à nos trahisons et nos lâchetés. Voyez ? Alors nous allons essayer de rentrer là, et pourtant le Seigneur s'est servi mystérieusement, parce que le Seigneur maîtrise tous les événements, encore une fois. Il maîtrise tous les événements, il est Dieu. Il le dit, ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne. Et dans le récit de l'institution eucharistique, on rappelle à la messe, au moment d'entrer librement dans sa passion, le Seigneur est maître des événements, même dans la faiblesse. Ça doit nous interpeller sur le fait que si nous sommes unis au Christ et que nous portons la croix, le Seigneur est maître de nos vies. Parce qu'il aurait pu mourir d'autres fois, il aurait pu être flagellé en sortant d'une synagogue. Il est passé à travers. Il est maître. Quand l'heure du Christ grand prêtre vient, il donne sa vie avant. Ce n'est pas le moment, il est maître. Et pourtant, donc les événements sont à la fois à placer pleinement dans une dimension humaine, avec chacun vit son combat spirituel, Pilate aussi, son questionnement existentiel, et en même temps, il y a la toute-puissance de Dieu qui s'exerce, ce qui fait que Dieu est maître des événements totalement, et le Christ qui est Dieu est maître des événements. C'est un mystère, c'est une espèce de dissymétrie, et pourtant c'est réel. Et du coup, Pilate est prophétique, et ça nous intéresse aussi dans saint Jean, puisqu'il dira « Voici l'homme, ecce homo ». Et nous pouvons méditer, et l'Église a médité. On a dans l'histoire de l'art beaucoup d'ecce homo. Ça a beaucoup marqué. Nous pourrions nous arrêter sur trois points. Tout d'abord, Pilate dit quelque chose de plus grand que lui. Ecce homo, c'est vrai. Mais c'est vrai de chez vrai. C'est Jésus qui est le vrai homme. Tout modèle d'humanité se comprend dans l'humanité du Christ. Si nous voulons devenir vraiment homme, nous avons à imiter le Christ, le vrai Dieu qui a pris une vraie humanité, une vraie âme, un vrai corps, qui n'est pas une marionnette, mais qui a aimé comme nous, a travaillé, a pleuré comme nous. Et en fait, il nous a appris à vivre selon Dieu, dans la grâce. Il est le vrai homme. Pilate dit une parole qui le dépasse, puisqu'il monte la victime. Il aimerait peut-être bien, par un arrangement, qu'elle s'en sorte, mais il ne va pas plus loin. Voici l'homme. Mais pourtant, cette parole est prophétique. Voici de fait le modèle de toute l'humanité. Toute humanité réussie est dans le Christ. Et pourtant, mystérieusement, il est présenté à ce moment-là. Lors d'un tribunal, il a déjà été un peu flagellé. Voici l'homme. Donc pour nous, c'est très important, c'est celui qui est le modèle de notre humanité qui va nous donner une leçon d'humanité à travers la passion. Donc pour nous, la passion, la croix, c'est une école d'humanité. Voyez, c'est une école de restauration d'humanité. Voici l'homme. La deuxième chose, et Pilate est prophétique, voici l'homme blessé. Qu'est-ce que montre le Christ? C'est le miroir. Le Christ nous renvoie à notre humanité. Il n'avait plus visage ni apparence, nous dit Isaïe. Ce qui était blessé physiquement, les psychologiquement, les émotionnellement, les spirituellement. Il s'est fait péché pour nous, dit Paul. C'est l'homme blessé. Le Christ est le miroir de l'homme blessé, de tous les temps. Si vous voulez, ce que je dis parfois, une vraie radioscopie de l'état humain, contemplez la passion, vous avez votre miroir. Voici l'homme, l'état réel. C'est la sortie du rêve, c'est le réel. On est blessé comme ça. Le voile va tomber. Voici l'homme blessé. Et le Christ, vrai homme, porte l'homme blessé sur lui. Il lui montre réellement. Et voyez, il y a un avant, un après quand on a compris ça, ou quand on veut rentrer là-dedans, puisque ça fait rentrer dans l'humilité, on voit vraiment son état. Non pas pour désespérer, puisque le Seigneur inaltérable porte cet état, et il est Dieu. Donc il va permettre à l'homme de résister, ne pas être détruit. Mais toujours est-il, l'homme est très blessé. Voyez. Parfois dans nos vies, nous faisons de la cosmétique sur le péché. Nous maquillons, nous déguisons, nous cachons. Là, bas les masques. Radioscopie complète. Voici l'homme. Et la troisième chose, c'est voici l'homme, voici ce qu'a fait l'homme. L'homme a plus blessé qu'on croit. Voyez, parfois, on se dit, j'ai pas fait de mal, mon père. J'ai fait des petits péchés, pas des gros. Mais on ne mesure pas que Jésus est mort pour moi et à cause de moi. Je m'arrête sur la deuxième. À cause de moi. Il révèle quelque chose de ma culpabilité forte. Voilà ce qu'a fait l'homme. Voilà ce qu'ont fait les hommes privés de la grâce à l'amour de Dieu. Dieu qui est inaltérable a montré dans l'humanité combien ça pouvait le blesser. Mais lui-même reste inaltérable. Mais dans, parce qu'il est, il est parfait, il se suffit. Mais dans l'humanité du Christ, on voit les coups que l'homme peut porter à Dieu, jusqu'à vouloir tuer Dieu. Donc la culpabilité, elle est grande. Elle est très grande. Et juste si on s'arrêtait là, en toute justice, on mérite rien d'autre que notre sort. Il faut en avoir conscience, ne pas relativiser là-dessus. En toute justice, l'homme mérite l'enfer. Voici ce qu'a fait l'homme à Dieu. Bien sûr, l'homme est blessé. Mais voilà ce qu'a fait l'homme à Dieu. Nous nous rappelons que Dieu a préparé le terrain pourtant, à travers révélation, patience, fidélité malgré la désobéissance du peuple de Dieu choisi, par les prophètes, par toute une pédagogie de la révélation qui fait qu'il était préparé, ce peuple, à accueillir le Messie, même si le Messie le dépasse. Il y a un saut, il y a un accomplissement et en même temps il y a un saut. On ne s'attendait pas à ce que ce soit Dieu lui-même qui vienne. Mais il était préparé, ce peuple. Et pourtant, il le tue. Et la culpabilité qui est grande. Voyez ? On n'imaginerait pas que, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui nous a envoyés chez nous, on imagine une mère Teresa. On prie pour avoir une nouvelle mère Teresa, elle vient, on la séquestre, on la tape, et puis on la tue. Tiens, quand même, on est allé fort. C'est ce qu'on a fait. Donc en fait, ça nous fait prendre conscience de la culpabilité de l'homme. Donc Pilate est vraiment prophétique sur ce coup-là. Et pourtant, le Seigneur veut nous sauver. Et donc je disais, le Seigneur va sauver par le bas. Pour le dire autrement, vous imaginez quelqu'un qui tombe dans une piscine de boue. Soit la personne met une corde, il faut qu'elle s'accroche, soit la personne plonge et récupère la personne. Donc le Seigneur va plonger, mais va faire plus que ça. Il va plonger au fond de la piscine, au fond du fond du fond du fond du fond. Comme il est inaltérable, il ne peut pas être détruit, comme on disait hier, Mais dans son humanité, il va plonger au maximum pour récupérer. Ce qui fait que personne, tout en plongeant ou en tombant dans la piscine volontairement, ou même avec des circonstances atténuantes, au plus profond du fond, il y aura toujours Jésus crucifié qui nous attend et qui nous tend les bras pour nous récupérer. Mais il le fait par pur amour, parce qu'il aime sa créature, parce qu'il veut la sauver, parce qu'elle a des prix à ses yeux, car comme il dit, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. C'est ce qu'ils nous disent les prophètes. Mais ça va être très vrai, il va nous graver par les clous dans sa main. C'est très vrai. Et il va aller au fond de la piscine, debout, dans le péché, immergé et nous chercher. Par pur amour, plus par justice, parce qu'effectivement nous ne méritons rien, nous avons tué Dieu dans son humanité. Donc c'est par pur amour. Donc nous rentrons dans la passion avec un grand sens de la gratitude. Alors rentrons maintenant dans les mystères. Nous méditerons cet après-midi le chemin de croix. Je ne vais pas les commenter, vous aurez des méditations, mais je vais commenter les mystères douloureux du Chapelet, qui sont une vraie école d'humanité. Une vraie école d'humanité à la suite du vrai homme, une vraie école de transformation. Retenons toujours cette phrase que nous disons souvent, Saint Augustin, « Dieu t'a créé sans toi, il ne te sauvera pas sans toi. » Et c'est notre dignité de faire ça, parce que le Seigneur nous considère comme des êtres libres qui pouvons choisir le salut qu'il nous offre et y collaborer. Et c'est plus méritoire et plus beau du côté du Seigneur de faire ainsi que de le faire en mode baguette magique. Parce que nous allons voir dans cette collaboration et cette suite du Christ, il y a tout le redressement de l'homme. Et si nous rentrons ainsi, nous allons comprendre ce qu'est les mystères douloureux du Christ. Alors j'y viens, il y en a plein des mystères douloureux, mais l'Église a donné un peu des épicentres, des lieux un peu clés. Vous savez, il y a plein de mystères de la vie publique du Christ, mais l'Église en a choisi 5. À partir de Saint Jean-Paul II, les mystères lumineux. De la même manière, les mystères douloureux, il y en a plein. On parle de Notre-Dame des sept douleurs, il y en a plein. On aurait pu dire les douleurs de l'incarnation, c'est la kénose. On aurait pu dire les douleurs de l'exil en Égypte du Fils de l'homme. On aurait pu dire plein de choses. Les douleurs de l'incompréhension à la synagogue, les douleurs des reniements. On aurait pu dire plein de choses. On en a nommé 5, mais qui sont des épicentres et qui se passent pendant la Passion parce que là, il y a une concentration de sauvetage. Il y a un plongeon plus fort. Et en fait, le plongeon se fait dans la chair du Fils de l'homme, dans la chair du Christ grand prêtre, dans la victime. Alors, entrons. Premier, c'est l'agonie. Le second, c'est la flagellation. Le troisième, c'est le couronnement. Le quatrième, c'est le portement de croix. Et il a son déploiement dans le chemin de croix. Et le cinquième, c'est la mort sur la croix. Nous allons méditer cela. Nous méditerons quelques éléments complémentaires, ainsi que quelques prières que va dire le Christ sur la croix. L'agonie. Le mystère de l'agonie est un mystère, nous le disions hier, obscur. Il y a quelque chose du combat de la lumière contre les ténèbres qui se joue au-delà de nous-mêmes. Très bien. Mais nous pouvons comprendre quelque chose de profond qui concerne notre vie chrétienne. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Ce qu'il se joue dans l'agonie, c'est ce qui s'est joué à la Genèse, l'entrée du péché. L'homme a désobéi et le vrai homme va réparer la faute en obéissant. C'est ce que rappelle l'épître aux Philippiens. De condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il est calé à Dieu. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Et ça commence. Il a toujours été obéissant. Les récits de l'enfance du Christ en Saint-Luc nous dit qu'il obéissait à ses parents. Mais là, il obéit totalement, encore plus, parce qu'il y a plus à prendre, encore plus. Et il obéit totalement pour guérir notre désobéissance. Les religieux nous disent que dans les 3 vœux évangéliques qu'ils font, qui sont aussi l'appel de la vie chrétienne, obéissance, pauvreté, chasteté, un qui comprend les 3, c'est l'obéissance. La chasteté et la pauvreté peuvent être intégrées dans l'obéissance. Étonnamment, les prêtres ne font qu'une promesse c'est la promesse, enfin ils font la promesse de célibat, mais c'est la promesse d'obéissance dans les mains de l'évêque, pour vous donner une idée. Eh bien, nous rentrons dans la passion du Christ par la notion d'obéissance. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et on voit que le Seigneur veut nous guérir quelque chose de profond, c'est de rentrer dans la volonté du Père. Ce qui a provoqué notre chute, c'est la désobéissance. Là, il y a un modèle d'humanité à suivre. Apprends-moi à obéir, Seigneur. Apprends-moi à obéir. À préférer Dieu à moi-même. Et il le dit, qu'il perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Perdre sa vie pour Dieu. Voilà. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Préférer Dieu, préférer les amis à soi-même. Et du coup, nous entendons de plein fouet ce que je disais dans l'épître aux Hébreux, « Je viens faire ta volonté ». Le culte chrétien par excellence, c'est l'offrande de soi. C'est l'offrande de soi. C'est l'offrande de tout ce qu'on est. Offrir toute sa vie. Saint Jérôme, le grand exégète, père de l'Église, qui méditait les textes de l'Écriture, s'entend dire un jour du Christ, « Jérôme, en gros, qu'est-ce que tu me donnes ?» Alors Jérôme s'arrête, le grand Saint Jérôme, « Je t'ai donné ma vie, je t'ai donné mon temps, tout !» Et il entend le Christ lui dire, « Quoi d'autre ?»« Je ne sais pas, moi. Jérôme, donne-moi tes péchés. » Voyez, le Seigneur prend tout dans la passion, ça l'inonde. Et il prend ça pour nous. Il offre sa vie pour nous. C'est le vrai culte. C'est le Christ grand prêtre qui offre le culte au Père. Culte de réparation. Parce qu'en toute justice, il faut réparer. Mais un culte de miséricorde, parce que ça va être guérissant. Et vous voyez, il exerce son sacerdoce. L'étymologie du sacerdoce, sacer facere, comme le sacrifice, ça veut dire faire du sacré. Il y a quelque chose de sacré que fait le Seigneur. Une obéissance sacrée, une offrande sacrée. Donc voilà, nous pouvons méditer ce mystère de l'obéissance, de rentrer dans la volonté du Père. Et le deuxième mystère, il pourrait dire, il touche aux deux autres conseils évangéliques, la chasteté, de manière imminente, et la pauvreté. Je m'arrête sur la pauvreté. Il est dépouillé dans sa flagellation de ce qu'il est. Il est mis à nu devant tout le monde. Il n'y a plus personne. Il est arrêté. Depuis son agonie, il est arrêté. Les amis se sont éloignés. Certains ont commencé à le renier, comme Pierre, à travers les trois reniements, et le coq qui chanta, il a pleuré. Donc il n'a plus de soutien. Dépouillé d'aide. Les anges ne l'aident plus à l'agonie, il est dépouillé. Pauvreté. Il ne parle pas. Voyez ? Et pourtant, il tient le coup. Il tient le coup. Le Seigneur nous apprend à tenir dans la pauvreté. Il y a quelque chose. Le Seigneur est mon roc. Le Seigneur. Il a confiance dans le Père, dans cette épreuve de pauvreté. Et de chasteté, de chasteté. Le corps est blessé, le corps est blessé. Le corps est blessé par la flagellation, il est mis à nu, il est meurtri par les coups. Il est objet de convoitise. On dit que c'était le plus beau des enfants des hommes. Avant qu'il soit flagellé, il était beau. Il reste beau même dans ses plaies, mais il a dû être soumis au regard. Comme une prostituée. Et il est blessé dans sa chair. Et la flagellation du Seigneur, nous dit Isaïe, guérit nos blessures. Par ces blessures, nous trouvons la guérison, nous dit la prophétie du serviteur souffrant. Et nous retrouvons ça dans la flagellation. Son dépouillement et ses blessures corporelles, ses meurtrissures, sont des guérisons pour notre hédonisme et notre sensualité. Il y a une vraie guérison, voyez, Guérison de faire la volonté du Père en premier et guérison de son rapport au corps. Souvenez-vous que le péché des origines nous a détraqués par rapport à notre rapport au corps quand nous avons désobéi. Là, le Seigneur restaure en mode douloureux parce qu'il est au fond du trou, mais il restaure. Et il porte sur lui tous les péchés de chair, toutes les souffrances, les tortures, toutes les pauvretés, les emprisonnements que l'homme peut porter. Parce qu'il veut délivrer. Tu souffres quelque part dans ta chair. Regarde Jésus, flagellé. Il compatit à ta souffrance et par ses blessures, il peut guérir tes souffrances. Le couronnement, le corps chemine vers la guérison dans la flagellation mystérieusement, mais aussi c'est l'âme elle-même. Plus profondément, c'est un mystère plus profond qui est guéri dans le couronnement. Le Créateur est humilié par la créature. C'est incroyable. Le Créateur ne bronche pas. Ne bronche pas. Il se fait frapper, fouetter, décorer, vêtements pourpres, une couronne qui lui fait mal, on se moque de lui, c'est vraiment le roi de l'univers, il bronche pas. C'est incroyable. On n'imaginerait pas une personne importante, un président, un évêque, se faire fouetter comme ça, il bronche pas. Qu'est-ce qui se joue là? Il se joue le silence de l'humble, qui donne des leçons juste en son silence, qui ne parle pas, mais qui parle dans sa chair par le silence. Il est l'humble par excellence, et il guérit l'orgueil de toute gloriole, de toute mondanité, de toute volonté, de toute puissance de l'homme, qui, malgré blessé depuis la désobéissance, est blessé dans sa chair, dans la maîtrise des sens, mais aussi profondément dans son âme. Il veut s'en sortir lui-même, se glorifier. Eh bien, le Seigneur se tait en enseignant qu'il faut mieux une bonne humiliation et que c'est guérissant. Et lui, il prend l'humiliation par excellence, puisqu'il est le Créateur, il est le roi de l'univers, il est humilié profondément par sa créature. Et en plus, il veut lui faire du bien. Et il dit rien. Vous voyez, des fois, quand on commence à goûter l'humiliation ou l'injustice, c'est pas encore l'humiliation, l'injustice, on sent poindre dans nos paroles un désir de se défendre. Lui ne dit rien. Silence. Il y a un enseignement du Christ dans le silence. Je vous disais, c'est la parole dans la chair qui parle. Le silence est éloquent dans la passion. Et puis après, on va rentrer dans une dimension importante de la... J'emploie le mot, je le vais remployer, engendrement. De l'engendrement à la vie nouvelle. C'est ce qu'on veut à Pâques. On va rentrer dans quelque chose d'important là-dedans, c'est le temps, le rapport au temps. La désobéissance qui est guérie par l'obéissance du Christ, le corps qui est assumé, qui a été blessé, et l'âme qui a été blessée dans l'orgueil, qui réapprend l'humilité dans le silence. Et mais il faut du temps pour faire la transformation, et le Seigneur va jusqu'au bout. Il aurait pu faire d'un coup, mais voyez, Dieu nous a créés dans l'espace-temps, et il va nous guérir dans l'espace-temps. Et le temps, c'est quoi? C'est le quatrième mystère, c'est le portement de croix. Ça dure. Et c'est une des vertus de du portement de croix, c'est la persévérance, la constance. Et il le dira lui-même un jour en Saint-Luc, c'est par votre persévérance que vous obtiendrez le salut. C'est par votre détermination. Le père Marie-Eugène, on dit que la clé, les spécialistes disent que l'une des clés de son admirable ouvrage, Je veux voir Dieu, c'est le chapitre sur le don de soi. Et il définit le don de soi vers le chemin à l'union à Dieu de trois manières. Le don de soi doit être indéterminé. Je ne me donne pas selon telle ou telle condition ou telle chose. Il doit être intégral. Ce n'est pas un peu, c'est tout donné. Le Seigneur donne tout dans la passion. Mais aussi, il doit être souvent répété. Parce qu'on peut se reprendre. Et le temps est une œuvre, un évêque me disait, c'est une œuvre de miséricorde, c'est-à-dire qu'on apprend à se donner dans le temps. Eh bien, le Seigneur va nous restaurer dans le temps, le portement de croix, il y a du temps, parce qu'en fait, il nous apprend la persévérance Il a le don de soi. Il est tombé à chaque fois. Il est tombé trois fois. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il pourrait dire, bon, j'arrête là, ça suffit. Ça fait trop là. On a fait un peu, mais c'est trop. On repart. Il recommence. On le frappe. Allez, j'en ai marre là. Vous voyez combien de fois nous lâchons les croix ? Combien de fois nous lâchons ce qui est difficile ? On en a marre. Le Seigneur persévère. Parce qu'on va jusqu'au bout. C'était ce qui était annoncé au début du Jeudi Saint. Jean 13, verset 1, il les aima jusqu'au bout. Le don de soi dans la durée. Donc il y a une grâce dans la durée de la souffrance. La souffrance pour la souffrance, non. Mais la durée de l'offrande dans le temps est une grâce. Et le Seigneur nous apprend cette constance à ne pas lâcher. Donc, de fait, si le Seigneur nous permet d'exister, notre vie, pour une part, est un chemin de constance et de persévérance, est un chemin de croix. Et je tiens à rappeler que Saint Jean-Paul II, marqué dans sa chair par la croix en tant que pape, et aussi dans sa vie d'homme quand il était en Pologne, un pays qui a souffert profondément au XXe siècle, a écrit l'encyclique sur le travail. Le travail. Et c'est très intéressant parce qu'il dit qu'il y a une dimension de rédemption, de pénibilité dans le travail. Je ne suis pas dans le registre de la création qui est une participation à l'œuvre de Dieu, mais dans la dimension de rédemption. Il y a une pénibilité dans le travail. Il y a de la sueur, comme dans la Genèse, tu travailleras maintenant avec la sueur, et c'est dur, et il y a une constance à avoir. Et qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? On participe au travail du Rédempteur. Et le Christ dira un jour, « Mon Père et moi, nous sommes toujours à l'œuvre. » Et dans la passion, il le montre, dans la croix, il y a le labeur du travailleur. Il y a le travail apostolique par excellence. Vous voyez ? Est-ce que je porte ma croix avec celui qui la porte ? Est-ce qu'il m'aide à être persévérance ? Est-ce qu'il va me guérir dans la durée ? Et lui, quelque part, il me montre que au-delà de toutes mes lâchetés, mes renoncements, je peux tenir dans celui qui me rend fort. Ma force se déploie dans la faiblesse. Voyez, mais c'est très étonnant parce que vous avez Simon de Cyrène. Il est humble, le Seigneur, mais il est Dieu. Alors, il est humble, il est Dieu, très bien. Mais dans son humanité, il est fragile. Il accepte l'aide. Le Seigneur nous permet de demander de l'aide. Il va accepter Simon de Cyrène. Mais en même temps, lequel des deux va être le plus guéri ? Ben, c'est Simon de Cyrène. Parce qu'il va rentrer dans un cheminement de conversion en aidant le Seigneur. Il va se rendre compte qu'il porte tout le Seigneur et qu'il porte lui-même sa propre vie. Et qu'en fait, le Seigneur lui demande en gros, j'ai une interprétation, mais je pense qu'elle est vraie, est-ce que tu voudrais porter un peu ta vie que je porte déjà tout seul ? Et ça va le transformer. Il va se dire, mais c'est vrai. Et on a un Simon de Cyrène, peut-être au début, dubitatif, voulant se cacher, en gros pas très persévérant, pas très engageant, pas très don de soi, qui finalement se convertit dans cette expérience et qui se dit « mais je vais tout donner, là j'y vais. » Et on suppose qu'il est devenu un vrai chrétien. Vous voyez ? Donc le labeur, la durée, le don de soi, la persévérance nous transforme. Et ça va jusqu'où ? Ça va jusqu'au cinquième mystère de la croix. Donc vous voyez, je vais revenir là, mais ça me semble important, ça va jusqu'où ? Ça va jusqu'à la mort sur la croix, le don total, tout est consommé, tout est donné, la vie jusqu'au bout, et surtout le pardon est offert, le pardon est donné, l'ouverture, je vais revenir, l'ouverture. Je m'arrête sur ce point, je vais y revenir, mais... L'ouverture, pourquoi ? Parce qu'au moment où le Christ meurt, vous avez le voile du temple qui est déchiré. Le voile du Saint est déchiré, le sanctuaire. Pourquoi ? Parce que le Christ grand prêtre sur la croix, qui a offert un vrai culte dans les larmes et l'obéissance au Père, a ouvert le ciel. Et que c'est le lieu du culte, c'est le vrai temple, c'est la vraie connexion. Et quand lui, il dira « Je suis la porte », Jean 10, il est de manière excellente sur la croix. C'est l'ouverture. Et de fait, la porte nous donnera la grâce, puisque sur la croix, la vie va jaillir. Et alors, Cet engendrement, vous voyez, pour nous méditer la passion du Christ, les mystères, c'est nous faire entrer dans une vraie humanité qui apprend à suivre la volonté de Dieu, être restauré dans sa chair, dans sa vie spirituelle, avec constant et don de soi jusqu'au bout. Et en fait, le Seigneur nous engendre. Voyez, il réajuste les choses. Notre humanité, depuis le péché, on aime bien ce qui nous plaît, mais on n'aime pas ce qui ne nous plaît pas. Ce qui coûte, on n'aime pas. Ce n'est pas parce que ça coûte, mais c'est que les choses de Dieu, on préfère les choses de la chair aux choses de Dieu. Et en fait, dans la passion, le Seigneur nous dit, apprends à aimer ce qui, a priori, tu n'aimes pas, et persévère. Et en fait, il nous réajuste à préférer le spirituel à l'intellectuel et l'intellectuel au passionnel. Il réordonne l'homme, il le recrée dans la passion. Donc on voit, suivre le Seigneur, c'est un chemin d'humanisation. Mais faites de manière douloureuse, faites au fond de la piscine. Et faites avec notre pleine liberté, si tu veux me suivre, si tu veux accueillir le Seigneur. Le Seigneur, nous entendons cette parole de saint Paul, le Seigneur le dira aussi, mes petits-enfants. Et saint Paul, il dira, mes petits-enfants, que j'enfante dans la douleur. Et on nous parle aussi de la création qui gémit dans l'enfantement. La passion du Christ, c'est l'enfantement de Dieu. C'est l'enfantement de Dieu qui enfante ses fils à la vie nouvelle. Alors, il n'a pas un gros ventre, mais il a une grosse croix. Mais c'est ça, il enfante réellement dans les douleurs. Il enfante à la vie nouvelle. La vie qu'on a reçue, elle est passée par la croix du Christ. Il nous a enfantés à la vie. Et vous voyez, c'est la théorie du porc épic. Et un porc épic, ça s'hérisse et ça dépique. Le Seigneur vient vers nous, mais s'il veut nous enfanter, il doit nous porter. Mais vraiment, il y a deux choses l'une. Plus il s'approche de nous, plus nous piquons. Parce que c'est comme ça. Et nous pouvons nous rappeler, voici l'homme qui a blessé Dieu. Le Seigneur commence à nous porter et nous le piquons. Ce qui fait que ces piques, soit il y a deux choses, soit il nous lâche, et c'est fini pour nous parce que ça pique, soit il nous tient et ces piques rentrent dans la chair, dans sa chair. Mais en rentrant dans sa chair, son sang nous guérit. Mais il faut du temps. Et son sang va amoindrir et faire tomber les épines. Voyez, le Christ en croix, c'est le Christ qui nous porte. Théorie du père Capique, si vous voulez. Mais soit il est blessé et nous tient, soit alors il nous lâche et il n'est pas blessé. Il s'est intéressé à nous. Donc il est blessé. La croix attire le Seigneur. Oh, je voudrais dire aussi quelque chose qu'on dit rarement. Je vais parler de la satisfaction. Saint Thomas d'Aquin, c'est une notion un peu complexe, mais c'est bon de l'entendre au moins une fois. Saint Thomas d'Aquin parle de deux types de satisfaction. Une parfaite qui compense parfaitement la faute commise, et une seconde qui est qualifiée de suffisante, même si elle soit imparfaite. Si vous voulez, notre satisfaction à nous, elle est suffisante dans celle du Christ, mais elle est bien imparfaite, parce que Dieu, nous l'avons blessé infiniment, même si nous sommes limités, parce que l'offensé à valeur d'infini. Et donc il faut satisfaire en toute justice l'offense faite à Dieu. Vous voyez, dans la passion du Christ, le psaume 84 se réalise, amour et vérité se rencontrent. C'est vrai qu'en toute justice, c'est exercé aussi. Et de fait, le Christ va satisfaire à l'offense faite au Père. Et la sienne est parfaite, infinie. Et c'est la seule. Et la nôtre, elle prend une valeur ajoutée. On y participe. On apporte un plus. Mais c'est le Seigneur seul qui satisfait au péché. En toute justice, il nous restaure. Et saint Thomas va plus loin. Et ça, c'est beau. On se voit le contemplatif derrière le grand intellectuel, ou même avant le grand intellectuel. Il affirmera plus tard que la passion du Christ a été non seulement une satisfaction adéquate, pour compenser l'offense faite à Dieu, mais encore elle a été surabondante. Il y a quelque chose de l'amour qui a été un surcroît qui a été fait là. Voyez, c'est incroyable. Et donc rentrons dans la beauté maintenant de ce que nous vivons. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, la croix est belle. La croix, on entendra les paroles de Pascal aussi par rapport à la croix et les paroles du Christ en croix. La croix est belle. La croix chrétienne n'est pas d'abord la douleur pour la douleur, plus t'en baves, mieux c'est. Non, ça c'est pas chrétien. Ce qui est le propre, et vous verrez, vous avez plein, je ne juge pas, mais plein d'artistes qui font des croix aujourd'hui, qui sont un peu des symboles de l'homme torturé, angoissé, névrosé. Ce n'est pas des croix chrétiennes. La croix chrétienne a quelque chose d'inaltérable, c'est qu'elle est belle. La croix chrétienne, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle est bonne. Pourtant, c'est un instrument de torture. Et pendant des siècles, dans les débuts des premiers temps du christianisme, on n'a pas représenté tout de suite la croix parce que ça avait beaucoup marqué la conscience de nos frères chrétiens. Et je veux dire aussi, la croix chrétienne est vraie, même s'il semblerait qu'elle semble absurde. Parce que de fait, Pilate, qu'est-ce que la vérité? La réponse du Christ crucifié, c'est un peu absurde comme explication du monde. Et pourtant, la croix chrétienne est belle, elle est bonne, elle est vraie. Alors rentrons peut-être par la beauté qui est plus simple à comprendre. C'est que vous voyez, quand une croix chrétienne est bien faite par un artiste qui est mu par la piété chrétienne, on voit les plaies, on voit les clous, on voit la souffrance comme dans le Grunewald, etc. Mais il y a quelque chose qui résiste à ça, qui fait que c'est beau. Qui fait que malgré tout, il y a quelque chose de profond, de paisible, de serein, de beau, de douceur qui s'exprime. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que celui qui est sur la croix est Dieu, et que la lumière brille dans les ténèbres, comme dit le prologue Saint Jean, et que les ténèbres ne l'ont pas arrêté, et que la laideur qui l'a défiguré, comme dit le prophète Isaïe, ne l'a pas totalement défiguré, puisqu'à travers des fissures, des plaies, passe une beauté. C'est comme si vous recouviez une ampoule de cambouis. Vous la mettez en éclairage, malgré tout il y a des fissures dans le cambouis, et il y a des rayons lumineux qui passent, qui sont les saintes plaies du Christ, son regard. Et il y a de la beauté en dessous de cette croûte de laideur. Et elle transparaît dans la croix, de manière voilée. Mais la laideur ne peut complètement altérer Dieu. Et donc une croix chrétienne, c'est forcément une croix qui est belle. Une croix qui montre qu'au derrière ça, il y a une espérance de beauté. Et que même il y a une beauté qui s'exprime dans la croix et qui nous émeut à travers une solennité, quelque chose de paisible. Voyez, parce que c'est Dieu qui est sur la croix. C'est pas qu'un homme torturé, c'est Dieu. Et Dieu est beau, il n'est inaltérable. La croix chrétienne est bonne. C'est de la même chose que la beauté, parce que celui qui est sur la croix a souffert tous les coups. Il peut être le modèle de la victime innocente de tous les temps, donc de la haine. C'est le porte-haine. C'est pas un porte-parole, c'est un porte-corps. Haine, haineux. Très bien. Mais toujours est-il, il exprime le pardon. Il exprime non le ressentiment, mais la compassion. Il y a quelque chose qui fait que même l'offenseur peut se trouver près de la croix de Jésus et ne pas se sentir jugé. Parce qu'il y a de la bonté toujours, même si on a massacré la victime. Il y a toujours de la bonté qui jaillit. Ce qui fait que l'offenseur peut trouver auprès de l'offensé de l'écoute. Et c'est le blessé qui écoute le bourreau. C'est incroyable. Et on a ça dans le mystère des grands chrétiens. On dit que le cardinal Vantoine, on devait changer, quand il était en prison en Asie pendant des années, on devait changer les prisonniers, les soldats qui veillaient sur lui, parce qu'on avait peur qu'ils les convertissent au bout d'un moment. Chez Maximilien Kolb, le regard de Kolb convertissait quasiment les Allemands. Les Allemands disaient, mais détourne ton regard. Mais de manière imminente, on a ça sur la croix du crucifié. Il y a de la bonté qui jaillit, au-delà de la laideur et de la violence qui s'est faite sur lui. Parce que sa bonté, elle est inaltérable, il est Dieu. Et donc une croix chrétienne n'est jamais haineuse, ou ne simplement la conséquence d'une haine. Elle dit profondément que la haine a voulu blesser l'amour, mais que la bonté de Dieu, son amour, résiste, est toujours compatissante, même pour le haineux. Voyez, c'est très obscur, mais c'est pas complètement noir. Il y a un peu de lumière au fond. Et on va y venir. Et enfin, elle est vraie, voyez, parce que ce n'est pas un éclat lumineux. Là, la vérité, elle est cachée. Mais comment se fait-il qu'il y en a qui se convertissent devant une croix? Parce qu'ils sentent que c'est vrai, que c'est profondément vrai. Soit vis-à-vis de leur humanité, soit vis-à-vis du sens de Dieu, soit vis-à-vis du sens du monde, de tout, de la solution du mal, de tout. Ils sentent que c'est vrai. Vrai de manière indestructible, profonde, pas forcément de manière cohérente, intellectuelle, parce que c'est obscur, c'est un mystère, et un des mystères les plus profonds du christianisme, qu'on aborde dans la foi. Mais ils sentent que c'est vrai. Comment la croix, comment se fait-il que la croix touche profondément le cœur humain? Parce qu'elle est vraie, parce que Dieu est vrai, et que ça se reflète dans la croix. Qu'au-delà de l'absurde de comment se fait-il que l'innocent et Dieu soient tués par sa créature, c'est injuste. Il y a profondément quelque chose de vrai, de cohérent, qui s'est dit malgré tout en dessous, dans la croix. Voyez, la cohérence, la vérité a eu le dernier mot. Quand le Seigneur dit « mes paroles, c'est des paroles de vérité, ne passeront pas », ben, il y a toujours des paroles de vérité dans la chair qui s'expriment dans le crucifié. Des paroles de vérité dans le crucifié qui résistent aux paroles absurdes, aux mensonges de l'homme. Ce qui fait que l'homme peut être touché, peut retrouver la boussole d'un coup par la croix. Donc vous voyez que la croix, c'est vraiment amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. C'est psaume 84. Vous avez ça à la croix. Et donc vous voyez que c'est le Christ miséricordieux que vous verrez ressuscité et représenté par l'apparition qu'a fait un peintre de sœur Faustine. C'est la même chose sur la croix. Il y a un resplendissement de lumière caché et un resplendissement de bonté diffuse qui se dégage du Seigneur, qui est le grand prêtre miséricordieux. Voilà. Je m'arrête un instant pour vous contempler ce qu'a fait l'expérience de Pascal et qui a médité la Passion. Voilà la première expérience que fit Pascal en 1654, le lundi 23 novembre. Il note cela. Feu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants, certitude. Certitude, sentiment, joie, paix, Dieu de Jésus-Christ. Ton Dieu sera mon Dieu, oublie du monde et de tout hormis Dieu. Il ne se trouve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Grandeur de l'âme humaine, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais je t'ai connu, joie, 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 pleurs de joie. Je me suis séparé. Mon Dieu, me quitterez-vous? Que je n'en sois pas séparé éternellement. Cette est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, je m'en suis séparé, je l'ai fui, renoncé, crucifié. Que je n'en sois jamais séparé. Il ne se conserve que par les voies enseignées dans l'Évangile, renonciation totale et douce, soumission totale à Jésus-Christ et à mon directeur, éternellement en joie pour un jour d'exercice sur la terre. Voilà ce qui a marqué Pascal et qu'on a retrouvé plus tard à sa mort dans sa doublure de son habit, l'expérience qu'il avait faite. Je ne sais pas s'il l'a fait en croix, cette expérience. Mais voilà ce qu'il dit après dans le mystère de Jésus sur le crucifié. Jésus souffre, c'est lui qui dira « Le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde ». C'est lui qui dira ça. Jésus souffre dans sa passion les tourments que lui font les hommes, mais dans l'agonie, il souffre les tourments qu'il se donne à lui-même. C'est un supplice d'une main non humaine, mais toute puissante, et il faut être tout puissant pour le soutenir. Jésus cherche quelques consolations, au moins dans ses trois plus chers amis, et ils dorment. Il les prie de soutenir un peu plus. Un peu avec lui, et il le laisse avec une négligence entière, ayant si peu de compassion qu'elle ne pouvait seulement les empêcher de dormir un moment. Je passe des passages, mais Jésus s'arrache d'avec ses disciples pour entrer dans l'agonie. Il faut s'arracher de ses plus proches et des plus intimes pour l'imiter. Jésus étant dans l'agonie et dans les plus grandes peines, prions plus longtemps. Nous implorons la miséricorde de Dieu, non afin qu'il nous laisse en paix dans nos vices, mais afin que Dieu nous en délivre. Si Dieu nous donnait des maîtres de sa main, auxquels leur faudrait obéir de bon cœur, la nécessité et les événements sont infailliblement. Console-toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé. Je pensais à toi dans mon agonie, c'est ce que dit le pense Pascal que le Christ lui dit. Je pensais à toi dans mon agonie, j'ai versé telle goutte de sang pour toi. C'est me tenter plus que t'éprouver, que de penser si tu ferais bien telle ou telle chose absente. Je la ferai en toi si elle arrive. Laisse-toi conduire à mes règles. Vois comme j'ai bien conduit la Vierge et les saints qui m'ont laissé agir en eux. Le Père aime tout ce que je fais. Souffre les chaînes et la servitude corporelle. Je ne te délivre que la spirituelle à présent. Je te suis plus ami que tel et tel, car j'ai fait pour toi plus qu'eux, et ne souffrirai pas ce que j'ai souffert de toi, et ne mourrai pas pour toi dans le temps de tes infidélités et cruautés, comme j'ai fait et comme je suis prêt à faire et fait dans mes élus et au Saint-Sacrement. Je t'aime plus ardemment que tu n'aies aimé tes souillures. C'est très grand. Je t'aime plus ardemment que tu n'aies aimé tes souillures. Nous pouvons aussi enfin méditer les sept prières du Christ en croix. Il y a des paroles de vérité, il y a des paroles miséricordieuses, il y a des paroles de traversée, et il est bon de les avoir. Peut-être chacun d'entre nous sera porté par une de ces paroles. Alors de fait, il y en a sept, c'est une plénitude, on connaît ce chiffre, sept péchés capitaux, sept jours de la semaine, sept sacrements, sept paroles à la croix. Le Seigneur fait bien les choses. La première, c'est le Christ, grand prêtre, qui prie pour le salut, qui rend un culte au Père et aussi qui a une dimension de miséricorde, puisqu'il dit « Père, pardonne-leur ». Voyez, c'est celui qui est la miséricorde qui s'exprime. « Père, pardonne-leur ». Et on peut le comprendre de plein de manières. Je vous en donne deux. C'est le Christ en croix qui demande pardon au Père, qui demande le pardon au Père pour ses bourreaux. Mais c'est aussi l'arrivée du Christ au terme de sa vie en croix, où tout est accompli, qui peut définitivement dire le grand pardon. Père, pardonne-leur, j'ai tout accompli. C'est fait maintenant. Voilà, donc ça peut nous toucher fortement. Et ceux qui iront se confesser, sachez que cette parole reçue à la confession, « Je te pardonne tes péchés », vient du Christ en croix, « Père, pardonne-leur ». Et qu'elle a coûté la vie du Christ en croix. Et donc nous avons à accueillir ce don du Seigneur. Vous voyez, le Seigneur donne en premier. Le Seigneur ne nous demande pas d'abord de suivre la croix. Le Seigneur nous demande de recevoir de la croix la bonté, la douceur, la paix, l'espérance et le pardon. Si tu ne reçois pas, tu ne peux pas donner. Tu n'es pas Dieu. Et je pense qu'un des erreurs chrétiennes que nous faisons souvent, nous voulons imiter le Christ à la croix sans recevoir du Christ en croix. Il faut recevoir du Christ en croix, d'abord. Recevoir son pardon. La deuxième chose, c'est la conséquence de ce pardon. Il dira au banc larron, le premier canonisé, même s'il n'est pas canonisé officiellement, « Aujourd'hui avec moi, tu seras au paradis. » Vous voyez, cette espérance, et ça c'est très important pour nous, parce que nous devons espérer pour toute personne. Donc nous devons, à la croix, dans ce Vendredi Saint, nous portons avec le Christ grand prêtre toute l'humanité et nos amis que nous connaissons qui ont pu se suicider, ou qu'ont des enfants ou des personnes qui sont en agonie. Seigneur, tu peux les accueillir dans ton paradis. Tu peux leur pardonner. Au Christ en croix, je t'implore. Pardonne-leur. Voyez. C'est peut-être ce que font nos frères chrétiens persécutés en ce moment pour leurs bourreaux. Et ils espèrent aussi que leurs bourreaux aillent au ciel. Voyez. C'est très fort parce qu'un jour, un prêtre qu'on avait invité sur la paroisse, le père, sa mère Récif, je crois, qui un peu un aumônier de l'AED, avait dit cette parole, c'est que dans l'Écriture, cette parole s'est révélée en vrai. Dans l'Écriture, il est dit, par sa croix, il a vaincu la haine. Et ce prêtre nous dit, en fait, il faut des chrétiens, parce que les chrétiens sont ceux qui apportent la paix dans les conflits en Orient. Mais qu'est-ce que ça veut dire spirituellement, si c'est cette réalité politique? Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? C'est-à-dire qu'un chrétien, ça porte la croix du Christ, et que la croix, elle est source de paix et de pardon. Et donc un chrétien est toujours un crucifié avec le Christ. Donc il porte un potentiel de paix qui vient du Seigneur, et qui est le potentiel de paix par définition. Le monde sera sauvé par la passion du Seigneur. La vraie paix n'est pas politique, elle est dans le Christ crucifié. Et toute notre œuvre politique n'est qu'un labeur, n'est qu'un chemin de croix à la suite du Christ. Deux paroles de miséricorde, hein. Père, pardonne-leur, la deuxième, miséricorde jusqu'au bout qui nous conduit au ciel. Et puis une troisième parole de miséricorde, voici ta mère. C'est la mère des douleurs et la mère de miséricorde. Voyez, le Seigneur ne nous laisse pas seuls dans l'expérience de la passion. Nous pouvons accueillir Marie, qui debout, Stabat Mater, elle tient debout, elle ne chancelle pas. Elle a fait le chemin de croix à sa manière. Elle a une place particulière. L'Église nous dit qu'elle est coopératrice singulière dans la rédemption. C'est une manière plus précise de dire co-rédemptrice, mais c'est moins équivoque. Eh bien, très bien. Eh bien, Marie, on peut l'accueillir. Et elle va nous aider à rentrer dans ce mystère. Et puis, nous avons des paroles de traversée qui reprennent le psaume 21, si je me souviens bien, au 22. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et là, souvent, on dit ben, « ça y est, Jésus, il a pas eu la foi, il est tombé, quoi. » Alors, je vous rassure tout de suite, le psaume finit en disant qu'il rend grâce dans l'assemblée, qu'il verra les œuvres de Dieu, et que, comme c'est le Verbe qui s'exprime sur la croix, c'est le Verbe qui accomplit l'Écriture sur la croix, ben, il traverse les psaumes, il dit. Et d'ailleurs, si vous lisez le psaume, il y a des passages qui correspondent à la passion du Seigneur. Mais le Seigneur est heureux de faire ce qu'il fait en même temps, parce qu'il est Dieu. Le Seigneur n'a pas la foi. Vous voyez, on voudrait trop humaniser Jésus en disant « il a douté là, donc il est un peu comme nous, donc ça va nous arranger ». Jésus n'a pas la foi, il est Dieu. S'il avait la foi, il ne serait pas digne de confiance, parce qu'il pourrait chanceler. S'il n'a pas la foi et qu'il voit Dieu en permanence, il voit le Père dans la vision béatifique, et bien à ce moment-là, il est digne de confiance. Et sa fine pointe, effectivement, dans le plus profond de son être, il est toujours dans la Trinité. Et en fait, il traverse l'Écriture. Ce n'est pas un doute, c'est qu'il porte la passion des hommes sur lui. Il la traverse. Et il va la traverser, de fait. Voyez ? Donc en fait, quand vous méditez « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?», vous pouvez de fait vous retrouver dans nos doutes, dans nos difficultés, dans nos trahisons, et le Seigneur qui les traverse. Mais lui ne doute pas, mais il la traverse. Et de fait, on va vivre la traversée, hein, la Pâque, puisqu'on va vivre la mort et la résurrection. Et le Seigneur, il la traverse. Voyez ? J'ai soif. Mère Teresa, ça l'avait beaucoup touché, cette parole. Elle avait dit ça dans tous les oratoires de l'adoration. Il y avait la phrase au-dessus, « J'ai soif ». Et en fait, ça c'est important de l'entendre parce que le Seigneur qui donne son retour gratuitement, et je vous l'ai dit, hein, au-delà de la justice, parce que la justice, il l'accomplit de son côté. C'est l'offensé qui accomplit la justice. Alors on devrait le demander à l'offenseur, c'est lui qui le fait. Donc nous, on ne mérite rien en termes de justice. Il le fait par amour. Mais il attend notre retour. Le Christ en croix attend notre aide, notre amour, notre respect. Comment tu vois la croix dans ta vie? Quelle est la place de ne serait-ce que vénérer la croix, de lui rendre un hommage? Dans le Père Lubot m'a dit ça, ça m'a marqué. Dans la liturgie de l'Église, la vénération de la croix, on parle de l'adoration de la croix. Et pourtant, on pourrait dire, mais c'est du bois. Mais les saints disent, hein, le Seigneur s'est associé à la croix. Et donc, quand on adore la croix, on adore le Christ. Et la croix nous dit « j'ai soif ». C'est-à-dire, le Seigneur crucifié nous dit « est-ce que tu as de l'amour en retour pour moi ?» Voyez. Et donc, de fait, un des plus grands amours qu'on peut rendre à Dieu, c'est adorer le Seigneur en croix. Tout est consommé, tout est accompli. Là, tout est vidé, tout a été donné, il y a un don total. Et je la lis avec la communion. Quand nous nous donnons au Seigneur, nous allons communier ce soir au Christ crucifié. Il n'y a pas de messe aujourd'hui. Une communion au Christ crucifié. Eh bien, le crucifié nous dira dans l'Eucharistie, tout est consommé. Et il nous posera cette question, est-ce que toi tu te consommes totalement avec moi? Est-ce que tu vas jusqu'au bout? Est-ce que tu veux aller jusqu'au bout avec moi? Voilà. Seigneur, je ne suis pas capable, je vais t'aider, je vais porter. Et voyez, la communion, on pourrait dire, c'est la consommation. Je communie à la consommation du Seigneur, et le Seigneur veut que je sois consommé. De fait, une vie chrétienne, c'est une vie consommée. Hein. Une vie consommée. Et Thérèse de Lisieux dira à la fin de sa vie, la coupe est pleine, la coupe est pleine. Consommation totale, jusqu'à la vie. Et dans l'Eucharistie, le Seigneur nous dit, est-ce que tu veux être consommé avec moi? Qui dit, tout est consommé. Voyez. Donc je nous invite à rentrer dans le fait que notre communion au Christ est une offrande. Et le Seigneur désire cela. Et puis enfin, vous avez le Christ grand prêtre qui dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » C'est l'offrande de tout ce qu'il porte. C'est lui-même. Mais il remet tout ce qu'il a porté. Il a tout porté. Il remet tout. Il offre tout. C'est un super offertoire. Il offre tout. Vous voyez, c'est le Christ grand prêtre qui s'exprime sur la croix. Je vais arrêter là, simplement un point existentiel. On a des croix, comment on vit les croix dans les croix du Christ? C'est important ça. La première chose, c'est que faut pas s'inventer des croix quand on n'en a pas. Parce que le Seigneur n'attend pas ça de nous. Et généralement, les croix, on aimerait avoir telle croix parce qu'elle paraît glorieuse, ça fait bien. Mais en fait, c'est pas celle qu'on a. Il faut accueillir les croix qui nous sont données, humblement. Et on ne fait pas le glorieux, ce n'est pas toujours évident. Mais il y a un vrai enjeu à un moment donné d'accueillir ce qui convient. Comme Thérèse de Lisieux, je choisis tout par moitié. De fait, on peut être écrasé et on a droit de demander de l'aide et prendre des moyens humains pour être aidé. Ça peut être psychologique, médical, ça peut être relationnel. Et c'est nécessaire. Le Christ, à sa manière, a été aidé par Simon de Cyrène. Il y a plein de Simon de Cyrène autour de nous. Le Seigneur nous demande cela. Mais il peut rester quelque chose qu'on va porter. Et des fois, le Seigneur nous l'enlève. Mais des fois, non. Et là, se mesure quelque chose de la maturité chrétienne. Je vais parler comme Paul. Je ne parle plus avec du petit lait, avec du solide. Est-ce que je le refuse ou est-ce que je l'accueille, ce qui reste, en vivant dans le Christ? Parce qu'en fait, il y a certainement en jeu, dans nos petites croix, notre fécondité de vie. Je me souviens, on m'a raconté ça, c'était des évêques qui témoignaient, il y en a qui disaient « j'ai fait du bien pour le Seigneur » et tout, etc. Tout le monde disait « ok ». Et un évêque qui se lève et dit « c'est bien de faire du bien, c'est bien de servir ». Encore plus grand, c'est de souffrir pour le Christ. En fait, c'était quasiment un martyr, l'évêque. Tout le monde applaudit, la leçon était dite. En fait, il y a quelque chose de fort là, qu'il nous faut accueillir, qui est un enjeu, se faire aider, évidemment. C'est pas plus tu en baves, mieux c'est. Parce que l'enjeu, le Seigneur ne nous a pas sauvés par la souffrance, il nous a sauvés par l'amour dans la souffrance. Mais n'empêche, rejeter cela, c'est rejeter la croix du Christ. Or, Jésus la vit en moi. Jésus veut la vivre en moi. Saint Paul, Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Il y a quelque chose de ma vie qui a été saisi dans les mystères du Christ. Et que, est-ce que je suis prêt à l'accueillir? Voyez, on parlait des prêtres. Pour les prêtres, il est dit, le jour de leur ordination, conformez-vous à la croix du Christ. C'est vrai pour tous les chrétiens. Et donc, j'allais dire, peut-être ça peut être un appel à une plus grande maturité aujourd'hui. De dire, ben voilà, j'ai pas tout choisi dans ma vie. Ce que le Seigneur veut guérir ou je dois me faire aider. Mais aussi, est-ce que j'offre et j'accueille comme un lieu de fécondité ou un lieu de rencontre avec le crucifié qui comprend, qui compatit, qui porte et qui me dit, c'est par là pour toi. C'est comme ça. Et on ne le comprend pas, d'abord. On ne le comprend pas parce que c'est pas ce qu'on voulait. Parce qu'une vraie croix, on la veut pas. Mais c'est par là pour toi. Viens, suis-moi. Qui perdra ta vie, la sauvera.